Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous étions à l'Université Paul-Valéry III de Montpellier et nous avions parlé d'un colloque. Il sera encore question de ce colloque aujourd'hui et nous ferons la connaissance d'une conférencière que j'ai entendue lors de ce colloque. Et cette conférencière, je la salue tout de suite. Elle s'appelle, j'espère ne pas estropier son nom, Nicolina Kay. Bonjour Nicolina.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Eh bien, nous sommes ravis de vous entendre parce que je me suis régalée au mois de février lors de ce séminaire consacré aux oiseaux et j'ai envie de partager avec les auditeurs cette belle expérience. Donc, on va d'abord un petit peu faire connaissance avec vous et avec votre délicieux accent. On se doute que vous venez de Grèce.
Oui, je suis grecque, oui.
Et nous allons donc.
Oui.
Vous êtes d'ailleurs diplômée en archéologie en histoire de l'art de l'Université nationale Capodistrias d'Athènes, c'est ça?
Oui, c'est ça. J'ai une double culture scientifique. Donc, j'ai commencé mes études en Grèce, à l'Université d'Athènes, où j'ai acquis une formation en archéologie classique et en histoire de l'art centrée sur l'iconographie et le style.
Et c'est d'ailleurs pour ça que donc vous êtes une chercheuse, vous êtes ingénieure de recherche en analyse d'images et j'aime bien rappeler effectivement que quand on parle d'histoire de l'art, quand on parle d'archéologie, quand on parle d'histoire, il faut aussi parler de science. Et dans ce colloque, vous nous avez donné votre expertise sur les oies antiques telles qu'on les voit sur les céramiques, par exemple. Et votre conférence, j'ai aimé le titre aussi, s'appelait « Oies et compagnie dans les images grecques ». J'ai gardé ce titre pour l'émission aussi. Vous avez donc tout de suite eu envie, dans votre jeune âge, de vous intéresser à l'Antiquité.
Oui. Oui, j'ai fait ces études à l'Université d'Athènes et après, je suis arrivée en 2003, je pense, je suis arrivée en France, à Paris, pour un 2A, puis pour un doctorat à l'École des hautes études en sciences sociales, sous la direction de François Lissarac, qui était un grand anthropologue de l'image. Donc, c'est lui vraiment qui m'a transmis le goût pour la céramique attique, c'est-à-dire la céramique produite dans la région d'Athènes au cours du 6e et 5e siècle avant notre ère. Donc, c'est grâce à lui que je me suis intéressée vraiment à la céramique.
Oui.
Et à ces images.
Et donc à ces oies dont il était question notamment dans cette conférence. Donc la conférence disait du 8e au 4e siècle, ça balait quand même une période importante. Pourquoi ce choix?
Alors en réalité, vous l'avez vu, c'était la plage chronologique était beaucoup plus serrée. C'était surtout 6e et 5e siècle. Donc époque archaïque et classique. Et ce choix répond d'abord à un impératif de cohérence et de clarté pour mon propos. Et ce sont d'ailleurs les périodes que je maîtrise au mieux, c'est-à-dire la période archaïque et classique. Cela ne signifie pas que je me désintéresse des autres époques, comme la période géométrique, hellénistique ou romaine, mais j'ai souhaité me consacrer pleinement à ces deux siècles pour construire une réflexion solide sur l'évolution du bestiaire en général. Donc c'est surtout durant cette période que l'on voit s'épanouir cette zoologie culturelle ou anthropozoologie visuelle, où l'animal, dont l'oie est le signe, devient en quelque sorte le prolongement de la figure humaine ou divine.
Oui, et c'est assez fascinant de voir à quel point ces oiseaux ont de l'importance et à quel point donc on a pu parler dans ce colloque d'aviculture. Et je me régale de rappeler l'origine latine de ce mot « avis », c'est l'oiseau, colombiculture, d'un qui sera question des pigeons, et ensériculture, puisque le mot latin qui désigne l'oie est le mot « anser ». Alors ces oies, effectivement, elles sont très très présentes dans l'univers gréco-latin. Bien sûr, dans le colloque, il a été question de bien d'autres contrées, mais nous, on va se focaliser même sur la Grèce ici. Ce sont des animaux qui donnent beaucoup de choses, en dehors de la symbolique dont nous parlerons, de la viande. On trouve dans les recettes d'Apicus mention de ces volailles. Les plumes, on s'en sert bien sûr. Le foie gras qui existait à Apicus en donne une recette. Donc tous ces oiseaux, oiseaux sauvages, oiseaux d'élevage, ont leur importance, y compris dans l'iconographie bien sûr et dans la mythologie. Je vais parler d'un poète, cette fois-ci latin, et après on se focalisera que sur la grecque, Martial, au livre 13, mais il nous dit « Cet oiseau sauva le temple tarpéien du Tonant. Cela t'étonne, il n'avait pas encore été rebâti par un dieu. » Donc le deuxième vers est moins intéressant, il fait allusion à l'époque de Martial, mais l'oiseau sauvage, donc c'est cet oiseau qui sauva Rome. Donc, on fait allusion là à la roche torpéienne et au fait que les Gaulois n'ont pas pu envahir, n'ont pas pu graver les collines romaines grâce aux oies qui ont... Alors, quel est le cri de l'oie ? On dit qu'elles aboient, je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'on dit pour les aboies.
Ah, je ne sais pas, j'ai aucune idée.
Bon. Alors vous...
Comme les images n'ont pas de son, je ne sais pas.
Oui, c'est vrai, on a l'impression qu'il y a du son, mais c'est tellement bien fait, mais il n'y a pas de son, effectivement. Alors, qu'est-ce qui vous a donné, vous, l'idée, l'envie de vous intéresser à ces oies ?
Alors, mon intérêt pour les oies s'inscrit dans mon intérêt plus vaste pour la mise en scène du bestiaire grec, lui-même né d'une curiosité pour ce que j'appelle la sémantique du détail. Et cela parce que dans l'imagerie des vases attiques, ce qui semble être au premier abord un simple motif décoratif, dénué de sens, peut en réalité opérer comme un véritable agent narratif, voire comme un signe. Signe S-I.
Oui, voilà, parce que voilà, comme on nous a montré des signes, c'est Y aussi, ne faisons pas de confusion, bien sûr.
Donc, après, j'avais consacré mes premières recherches aux motifs végétaux. Donc, passer aux animaux m'a semblé être un choix évident, presque un progrès, une évolution si l'on suit la hiérarchie aristotélicienne du vivant. Donc, c'était une manière de suivre ma propre curiosité, un peu comme Alice qui suit le lapin blanc dans son terrier.
Oui, alors j'ai oublié de mentionner que vous avez beaucoup cherché sur les végétaux et publié aussi. Hein.
Oui, oui. Et donc, j'ai passé après au bestiaire grec. Et mon but était surtout de comprendre le statut visuel des animaux, comment ces animaux, qui sont parfois très discrets sur les vases, ils sont nichés sous une anse ou sous un siège, participent en réalité au cosmos du vase, au cosmos, c'est-à-dire à son économie visuelle.
Oui.
Et comment ils offrent des prises ou des affordances pour exprimer des valeurs profondément humaines, voire social. Voilà mon, en
alors,
quelques mots,
oui.
Intérêt pour le bestiaire grec.
Et c'est vrai que vous aviez déployé dans votre communication beaucoup d'exemples de commentaires dont nous allons peut-être parler. Comment l'avez-vous construite, votre intervention ? Quel a été votre... Bon, on a compris le fil conducteur, mais quel a été votre choix d'image ? Parce que j'imagine que le choix n'a pas été facile.
Ah, oui, non, ça n'a pas été facile. Bon, mon approche est avant tout iconocentrée et sérielle. Donc, on ne regarde jamais une image seule, mais on étudie des images en série. Et à partir de ces séries, on cherche à comprendre comment elles fonctionnent ensemble pour créer un discours visuel. J'aime donc construire mon argumentation, non pas à partir de concepts ou de grandes questions théoriques, mais à partir d'un réseau, à partir d'un défilé d'images. Donc, c'est une démarche qui ressemble presque à un jeu de cartes où il faut déceler les répétitions, les variations et bien sûr les exceptions. Donc, je pars de l'image pour y retourner. De temps en temps, bien sûr, j'utilise des textes, notamment Homère et la poésie lyrique, mais de manière complémentaire à l'image.
Et donc, vous avez choisi combien d'images pour votre intervention ? Parce qu'il y en avait beaucoup, hein.
Oui, mais c'était une heure, donc une quarantaine d'images.
Oui. Et sur combien à peu près que vous aviez à votre disposition ?
Avec des oies, oh. Des oies ou des signes, parce que c'est
oui, voilà, les signes aussi sont un motif récurrent.
Signes, même on a du mal à faire la distinction entre le cygne, l'oie et le canard. Donc, je dirais
Oui.
une centaine au moins. Donc, oui,
Et
ce sont des volatiles très présents dans la céramique attique et dans l'imagerie grecque en général.
alors oui, justement, on avait remarqué ça, qu'on a parfois du mal à distinguer quel animal est présent ou pas. Hein, et qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît une oie alors, finalement? Parce qu'il y en a plusieurs sortes en plus, hein, des oies.
C'est une très bonne question. En fait, il y a une imprécision visuelle assumée de la part des peintres antiques, des imagiers grecs en général. Donc, il est vraiment difficile de faire la distinction entre une oie, un cygne et un canard, car les imagiers n'ont pas la précision d'un illustrateur de manuel zoologique. Ils ne visent pas la reproduction fidèle. Ce qui explique qu'on a du mal à différencier l'oie du cygne, mais aussi le héron de la grue, la panthère du guépard, l'âne du mulet, etc. Donc j'ai choisi des images qui montrent bien cette imprécision visuelle assumée de la part des imagiers. J'ai choisi aussi des images qui montrent aussi la transgression des frontières. Car vous le savez, on projette souvent sur ces images des schémas rigides et de polarité où le cygne incarnerait le pôle masculin, sauvage et extérieur, tandis que l'oie représenterait le versant féminin, domestique et intérieur. Pourtant, l'analyse des images montre que les oies, ou tous les animaux en général, qu'ils soient domestiques ou sauvages, transgressent constamment ces frontières conceptuelles que les spécialistes aiment beaucoup. Ces polarités nature-culture, intérieur-extérieur ou masculin et féminin.
Et donc, effectivement, le souci, ça n'est surtout pas le réalisme, même si le dessin est fort bien fait, ça n'est pas la question, mais plutôt la symbolique.
C'est la symbolique et c'est surtout les liens avec l'humain. La figure animale ne se comprend qu'à travers son rapport à l'humain, qui reste le centre de gravité de l'imagerie grecque. L'imagerie grecque est fortement anthropocentrée. Donc l'oie ou les cygnes ne sont pas là uniquement pour leur beauté visuelle, pour leur beauté gracile. Ils complètent la nature sociale des hommes, des femmes et des enfants. Ils agissent comme des amplificateurs du corps humain pour visualiser des qualités physiques comme la vélocité, la grâce, mais aussi des qualités éthiques comme la belligérance, ainsi que des émotions ou des états d'âme comme l'affection et la complicité.
Eh bien, nous allons marquer une petite pause musicale, pour une fois pas érudite du tout et plutôt rigolote, parce que j'ai fait appel à Walt Disney et aux Aristochats, où on voit quelques
Ah,
oies.
j'adore.
Donc, on va les entendre, je ne sais pas comment on va dire, cancaner, se dandiner. Et puis ensuite, on se retrouve peut-être pour évoquer quelques-unes des images. Alors, bien sûr, on est à la radio, c'est pas forcément facile, mais faire un choix de celles que vous préférez, par exemple, ou quelques images dont vous estimeriez que les auditeurs pourraient aller les regarder dans un livre ou sur Internet. On se dit à quelques minutes, dans quelques minutes, peut-être une minute ou deux à peine. À tout de suite.
En avant, marche!
Maman, il faut marcher au pas d'une oie comme elle.
Oui, chérie, pensez oie.
À notre arrivée à Paris, nous vous présenterons à oncle Waldo.
Waldo?
Oui, c'est notre oncle.
Nous trouverons oncle Waldo au petit café.
Au petit café?
Oh, j'en ai entendu parler. C'est magnifique.
Alors, c'est la deuxième partie de l'émission Antiquissimo, consacrée encore une fois aux volatiles de l'Antiquité et à notre précieuse interlocutrice Nicolina, qui va se livrer à un exercice pas facile du tout à la radio, puisqu'on va parler d'images et pratiquer cette discipline qu'on appelle l'ekphrasis. Alors, Nicolina, qu'est-ce que vous nous proposez de mettre dans notre imaginaire bestiaire?
Donc, pour illustrer notre échange, je vous ai envoyé cette coupe à fond blanc attique qui aujourd'hui se trouve à Londres, au British Museum. C'est une coupe que j'aime beaucoup. Et à l'intérieur, on voit la déesse Aphrodite, une fleur à la main, montée sur un oiseau en vol. Et ce qui est fascinant, c'est que les chercheurs ne s'accordent pas sur l'identité de l'animal. Certains voient une oie à cause de son plumage bigarré et à cause de son cou court, tandis que d'autres y voient un signe jugé plus digne d'une divinité. Donc c'est une image exemplaire pour plusieurs raisons. D'abord pour cette fameuse imprécision visuelle. Elle illustre parfaitement ses difficultés à distinguer les espèces, car encore une fois, l'imagier ne cherche pas la fidélité ornithologique. Mais aussi, c'est une image qui dit des choses sur l'expérience du banquier, parce qu'il faut imaginer que cette image de la déesse apparaissait progressivement au fur et à mesure que les convives
Eh
vidaient
oui.
sa coupe de vin. Donc, il y avait un effet de surprise, hein, et c'était comme une épiphanie. Et ça, c'est un élément important qu'on oublie souvent. On oublie souvent que le vase n'était pas un objet inerte destiné à être exposé dans une vitrine muséale, mais c'était un objet qui était manipulé, manié et qui circulait dans la salle de banquet. Et la majorité de ces vases qui étaient destinés au service et à la consommation du vin en Grèce finissaient leur vie dans des tombes étrusques, en Italie donc, en tant qu'offrande funéraire. Donc, c'était des objets qui voyageaient et nous, aujourd'hui, les archéologues, nous essayons de retracer leur parcours, leur vie sociale. Voilà, c'est une coupe qui me plaît beaucoup, que j'aime beaucoup.
Et alors, donc, effectivement, on y reconnaît ce que vous disiez de la fusion entre l'humain et l'animal.
Bah, en l'occurrence, là,
Oui,
c'est
l'humain, c'est
la
mal dit.
déesse, une
Oui,
divinité.
voilà. Mais il faut se référer à la dimension anthropomorphique de cette
Tout à
religion.
fait, tout à fait. À la figure humaine, oui, tout à fait.
Et alors, ces oies, elles sont associées à quelle divinité? Est-ce qu'elles ont une spécialité mythologique?
Très bonne question. Donc, on a une série de vases où ces oies interagissent avec Athéna. Il y a 5-6 vases. Il y a un très beau site où il y a Artémis accompagnée. Alors là aussi, on ne sait pas si c'est un cygne ou une oie, plutôt un cygne. Et Aphrodite. Aphrodite, on la voit souvent en train de chevaucher un oiseau. Enfin, un cygne ou une oie.
Et donc, elle est associée en tant que protectrice, en tant que gardienne. Et on se souvient, par exemple, chez les Romains, qu'elle est associée, du coup, à Junon, au temple de Junon. Hein. Donc, elle est plutôt dans l'univers féminin, semble-t-il.
Il semble, mais oui, il semble, on pourrait dire ça. Même si, encore une fois, les animaux, tous les animaux, y compris les oies et le cygne, aiment défaire nos schémas masculins, féminins, intérieurs, extérieurs. On a des images où des oies accompagnent des figures masculines.
Est-ce
Donc, on ne peut pas
que
dire qu'elles sont exclusives
oui.
aux féminins.
Et est-ce qu'il vous vient à l'idée, donc sans qu'on les ait là ici sous les yeux, d'inciter à regarder particulièrement telle œuvre grecque, telle céramique grecque, et peut-être avec un dieu pour changer un petit peu?
Une oie avec un dieu.
Oui, si c'est, je ne sais pas si c'est facile à se remémorer, hein. C'est peut-être une
Non,
question piège.
si c'est un signe, on peut dire on a que le signe est lié à Apollon.
Mais pour
Mais
les
là,
oies, c'est plutôt donc ce qui vous vient à l'idée des
c'est
divinités.
plutôt les divinités féminines, oui.
Et alors, quelles autres œuvres pourriez-nous nous recommander d'aller regarder? Alors là, celle que vous nous avez désignée, on peut la voir sur le podcast et puis regarder dans le musée, le British Museum, où elle est collectionnée. Et est-ce que vous en pourriez citer d'autres?
Ah oui, il y a ces cruches miniatures qu'on offrait aux enfants lors de la fête des Entestéries. C'était une fête consacrée à Dionysos. Donc, sur ces petites cruches, on voit des enfants, surtout des garçonnets, qui sont suivis de canards et des oies. Ils avancent en secouant le rocher. Ça, ce sont des images très amusantes.
Oui, et attendrissante en même temps, puisqu'on est dans l'univers des enfants.
Oui, et toujours dans l'univers des enfants, on a des stèles funéraires, c'est-à-dire des stèles qui marquaient des tombes d'enfants, où on voit des fillettes tenant leur poupée avec une oie à leur côté qui leur tend le cou, marquant ainsi la complicité, l'affection entre l'oiseau et sa jeune maîtresse, mais aussi la douleur de cette mort prématurée. Et à l'inverse, il y a un type statuaire de l'époque hellénistique cette fois qui montre un garçonnet en train d'étrangler une oie.
Ah.
Donc, oui, une lutte dynamique qui sert à mettre en scène la force physique en herbe, la force physique naissante de l'enfant. Ça, c'est un type statuaire très connu.
Oui, en même temps, on s'y attend pas, quoi, avoir une scène où on voit une certaine force et violence.
Oui, ah, c'est un petit Héraclès, hein, comme Héraclès, il est en train d'étrangler les serpents, ce garçon essaye d'étrangler les oies.
D'accord. Est-ce qu'il y a encore d'autres céramiques qu'on pourrait recommander dans les recherches de nos auditeurs?
Ah, je ne sais pas, il faut aller au musée et regarder de près les vases. Il y a toujours des canards, des oiseaux, des volatiles.
Et alors donc, ce que vous aviez puisé dans tout ce que vous voyez alentour, mais peut-être dans vos souvenirs personnels d'enfant, parce que j'imagine que enfant déjà, vous aimiez regarder ça à Athènes.
Oui, j'allais souvent au musée, donc j'aimais regarder les images, les images en général. Je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'image et aux détails, aux motifs très discrets. Donc j'ai un œil assez exercé, un œil qui focalise sur le détail.
Et alors, est-ce que vous-même, vous êtes exercé à peindre ces animaux ou non? Vous êtes avec à la fois le regard de l'historienne de l'art et en même temps de la chercheuse scientifique?
Non, moi-même, je dessine pas. Je sais dessiner, mais enfin, je ne pratique plus le dessin. Par contre, je m'intéresse beaucoup au dessin des chercheurs et des historiens de l'art. Donc, c'est un objet de mes recherches.
Et alors justement, parlons un petit peu de l'objet de vos recherches et de la manière dont ça se passe, parce que j'imagine que les auditeurs sont curieux de savoir ce que c'est que exercer votre métier. Vous n'êtes pas dans un laboratoire, comme on pourrait imaginer un scientifique caricaturalement, et vous travaillez comment en fait?
Bah déjà, j'ai longtemps enseigné à Paris 1, à l'Université de Paris 1, à l'École des hautes études, aujourd'hui à l'Institut catholique de Paris, à Paris et à Rouen, à l'Université de Nantes. Donc j'enseigne et je passe beaucoup de temps à enseigner. Et ensuite, j'ai mené mes recherches dans le laboratoire Anima à Paris. Donc des recherches qui sont sur. Toujours consacré, pardon, aux motifs végétaux, aux bestiaires, au corps, à ses parures, aux ornements. Je m'intéresse beaucoup au rapport entre ce que nous appelons ornementation et figuration, autre polarité, image de corps. Donc,
Et
voilà.
donc vos étudiants, les cours que vous leur donnez ont quel intitulé? Alors je ne parle pas du contenu précis, mais c'est des cours d'histoire de l'art, c'est des cours d'intérêt sur les d'historienne des animaux. Quelle est la nomenclature du cours que vous donnez?
Alors, histoire de l'art antique, archéologie et art grec, méthodologie en histoire de l'art. Et je coanime aussi avec Stéphanie Villers, qui est professeure à l'Université de Paris-Cité, et Cécile Colonna, qui est directrice du département des monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France. On coanime ensemble un séminaire qui est intitulé Anthropologie des images dans les mondes anciens, où on accueille des spécialistes de l'art grec et romain 2 fois par mois, à peu près.
Et alors, il y a des publications autour de ces recherches?
Ah oui, il y en a. Il y a mon livre.
Alors, on va donner son nom. Comment s'appelle votre livre?
Très bonne question. L'esthétique de fleurs, Cosmos Poikilia et Charis dans la céramique attique du 6e et 5e siècle avant notre ère.
Là,
C'est pour des groupes.
on peut pas faire plus précis, hein. Et
Ah oui.
vos étudiants se destinent à quel métier en général? J'imagine qu'il y a plusieurs réponses à ça, mais quand on suit vos cours, c'est qu'on se destine à préparer des concours. C'est quel est l'objectif final?
Oh.
Vous le savez peut-être pas toujours.
Je sais pas, j'en vois tellement. Ils sont dans souvent une double licence histoire de l'art et droit. Histoire, ils suivent une formation d'historien ou d'historien d'art ou d'archéologue.
Très bien. Ben, j'espère que ça donnera l'envie à plus de jeunes encore de se consacrer à ces recherches pointues, passionnantes, qui, encore une fois, croisent à la fois le domaine scientifique et le domaine archéologique et le domaine artistique. Merci beaucoup, Nicolina, pour
Merci
nous avoir
beaucoup.
fait partager un petit peu de votre passion et de votre science. Merci à vous.
Merci à vous, merci.
Au revoir.
Au revoir.